Radio Okapi.
Nous ouvrons ce journal par cet engagement de la RDC et le Rwanda sous consultation des États-Unis pour la création d'un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai prochain. Ceci est contenu dans une déclaration signée hier vendredi 25 avril. La basilique Sainte-Marie Majeure est désormais sa dernière demeure. Le corps inanimé du pape François a quitté le Vatican. La cérémonie funéraire s'est déroulée à Place Saint-Pierre de Rome. Dans ce journal, Radio Okapi vous y ramène. Question de vous y associer pour rendre à François les derniers hommages. Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, ancien président de la CENCO de 2016 à 2024, est notre invité. Avec lui, nous parlons des 12 années de pontificat du pape François, inhumé ce samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Découvrons à présent les autres faits et contours d'actualité congolaise sur les diverses fréquences de Radio Okapi. Aimable auditeur, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. À la présentation, Billy Ivan Lutumba. La RDC et le Rwanda, en consultation avec le gouvernement des États-Unis, s'engagent à créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les deux pays au plus tard le 2 mai. C'est ce qui est mentionné dans la déclaration faite hier le 25 avril à Washington. Cette déclaration porte sur des principes qui doivent permettre de restaurer la paix à l'est et faciliter la reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Détail avec Askanzi Biatayo.
Six principes en total sont bien définis dans cette déclaration. Ils portent d'une part sur la souveraineté, l'intégrité, la gouvernance de chaque pays, les préoccupations sécuritaires, les cadres d'intégration économique régionale. Et d'autre part, la prise en compte du retour des déplacés internes, des réfugiés, les soutiens à la MONUSCO, aux forces et mécanismes régionaux pour aboutir à un accord de paix. Par exemple, le premier principe demande au Rwanda et à la RDC de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Un principe qui demande à chaque partie de s'engager sur une voie permettant de régler le différend grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. Dans le cadre d'intégration économique, la RDC et le Rwanda s'engagent à élargir la coopération concernant des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. Tous ces principes tiennent compte, entre autres, des processus fusionnés de Nairobi et de Luanda. Ils prennent aussi en considération les discussions en cours de Doha.
À présent, le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, plaide pour une meilleure coordination multilatérale des efforts de paix en RDC. Dans une déclaration rendue publique et parvenue ce samedi à Radio Okapi, Dr Mukwege affirme que la multiplication des initiatives dispersées de paix n'offre pas de gage sérieux pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC, ni pour restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Dans cette déclaration, Dr Mukwege a pris l'exemple de la désignation par l'Union africaine du président togolais Faure Gnassingbé le 12 avril dernier. Pour lui, cette désignation doit être soutenue pour redynamiser et harmoniser les efforts déployés par les États et les institutions partenaires de la RDC pour consolider une sortie de crise durable. Des détails dans ce condensé d'Arsène Zibia Toyoro rendu par Grace Hamzati.
Le prix Nobel de la paix estime qu'il ne faudra pas, à travers les efforts de paix, répéter les erreurs du passé qui ont prolongé et aggravé la crise et l'instabilité en RDC. Mukwege fait exception à l'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2013. Pour lui, les précédents accords de la paix ont systématiquement été motivés par des intérêts à court terme, ce qui a fait par exemple la promotion des seigneurs de guerre au sein des institutions de l'État et faciliter l'intégration des éléments des groupes armés dans les forces de défense et de sécurité congolaises sans obtenir la paix pour la population. En dépit de tout, Mukwege constate que la communauté internationale n'est plus apathique face à la tragédie congolaise. Il cite entre autres des mesures restrictives que les États-Unis et l'Union européenne ont adoptées contre le Rwanda, y compris la suspension de l'aide internationale, ce qui illustre, selon Dr Mukwege, un début de prise de conscience. La grande attente de Dr Mukwege est de ne pas voir les États-Unis et l'Union européenne œuvrer de manière coordonnée avec tous les partenaires concernés pour augmenter la pression sur les acteurs de la déstabilisation et du pillage de la RDC, ce qui nécessite, d'après Mukwege, l'imposition de la paix en RDC.
Nous allons rester pour parler toujours des réactions à propos de cette signature de l'accord de principe entre RDC et le Rwanda. Cette signature pour la paix et le développement signée entre les deux pays sous l'égide des USA doit servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. C'est ce que pense Frédéric Kamani, spécialiste en relations internationales. Il attire par ailleurs l'attention des autorités congolaises pour mettre en place des stratégies pour que cet accord soit réellement gagnant-gagnant. On écoute Frédéric Kamani, j'en parle à Irung.
Il y a eu plusieurs accords effectivement signés entre la RDC et le Rwanda d'un côté, entre la RDC et d'autres acteurs pour justement rétablir la paix et la stabilité au niveau de la sous-région. Mais on a toujours assisté soit à des volte-face ou soit à des retournements de situation dans la mesure où, au-delà de parler de manque de volonté politique entre les acteurs, je crois qu'il y a aussi un élément important qui manque dans les accords signés, c'est cette contrainte pour amener les acteurs à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Et nous pensons que cette fois-ci, cet accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis va servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et que les investissements américains puissent apporter un plus dans la croissance et le développement de la RDC et du Rwanda. Mais je vais attirer ici l'attention des dirigeants congolais de permettre à ce que cet accord ne soit pas un accord à somme nulle, mais que ce soit un accord à somme multiple et ils doivent travailler au niveau interne.
Cette autre actualité en rapport toujours avec la partie est de la RDC. Dans le Nord Kivu, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, PDDRCS, a lancé samedi à Beni l'opération de remise des cartes d'identification biométrique aux ex-combattants. L'activité se déroule au camp militaire général Chico Chitambwe, situé à 15 km du centre-ville. Le lancement a eu lieu en présence de Marie Chantal Lumba, coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS, chargée des questions techniques et opérationnelles. Détail avec Martial Papi Mukeba.
Au total, 800 ex-combattants des villes de Beni et Butembo ainsi que de la chefferie de Bachou sont concernés. Marie Chantal Lumba explique l'importance de la carte d'identification biométrique.
Parce que cette carte, ça vous identifie, ça vous libère. Et pour nous, cette carte vous permet de pouvoir accéder à certaines formations professionnelles. Et je pourrais vous rassurer qu'il y a des militaires, des responsables des droits de l'homme qui mènent des enquêtes pour ne pas qu'on amène n'importe qui.
Le commissaire divisionnaire adjoint Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, a lancé un appel aux combattants encore actifs.
Qu'ils fassent quand même une comptabilité. Ils vont voir que rien n'a été fait. Au contraire, c'est plus la désolation, les freins pour le développement de la communauté. L'appel que je passe à chacun d'eux, qu'ils reviennent au bon sens.
Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO Beni procèdent en parallèle à une opération de vérification pour s'assurer qu'aucun ex-combattant inscrit n'a commis des violations des droits humains. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, la société civile Force Vive du territoire de Lubutu vole au secours des militaires FARDC et les Wazalendo en vivre et non vivre. Le président de cette structure citoyenne qui a remis ce don aux bénéficiaires vendredi 25 avril fait savoir que ceux-ci sont les efforts de plusieurs couches de la population pour assister ces combattants. Pour plus de précisions, on écoute Mutoro Mumbere, Jean-Pierre, joint par Florence Kizalunga.
Sous l'initiative locale, c'est vendredi 25 avril 2025 que la société civile Force Vive du Maniema, coordination territoriale de Lubutu, vient de remettre aux membres du comité local de sécurité restreint 1600 gobelets de la farine de manioc, 25 litres d'huile de palme, 4 sachets savobar, 50 gobelets de haricots, un sac de sel, comme assistance aux vaillants FRDC et Wazalendo du territoire de Lubutu pendant cette période cruciale. Ces dons sont venus de la FEC, confession religieuse Neno, CK16, 8e CEPAC, Kimbangu, Hôpital Général de Référence de Lubutu, JCR et quelques personnes de bonne volonté. Nos remerciements s'adressent à toutes personnes qui nous ont assistés, de près ou de loin, et aux autorités tant locales, provinciales que nationales, pour leur accompagnement à tous les niveaux. Ensuite, cette structure citoyenne plaide au gouvernement congolais pour la prise en charge de ces vaillants combattants FARDC et Wazalendo à tous les niveaux, en leur dotant d'un cantonnement, hôpital, bureau administratif et que sais-je encore.
Nous allons passer maintenant à notre deuxième titre. Comme dit, nous allons vous ramener à Place Saint-Pierre à Rome où a eu lieu l'inhumation du pape. La dépouille du pape François repose désormais à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Les obsèques du Saint-Père se sont déroulées ce samedi à Rome. Avant l'inhumation, l'un des points culminants de la cérémonie était la messe dont l'homélie a été prononcée par le cardinal doyen Giovanni Battistare. Plus de 130 délégations du monde entier, dont une cinquantaine de chefs d'État y ont pris part. Et plus de 250 000 personnes selon le Vatican, rendu leur dernier hommage sur la place Saint-Pierre à François. Parmi les grands absents, il y a le président russe Vladimir Poutine qui certainement ne veut pas prendre des risques, lui qui est recherché par la Cour pénale internationale. Très critiqué aussi par le pape François, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas fait le déplacement de Rome. Alain Hirung nous fait revivre l'ambiance qui a régné.
8 heures. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent le glas pour les funérailles du pape François. À quelques minutes du début de la messe, environ 140 000 personnes sont présentes. 8h07, le cercueil du pape François quitte la basilique Saint-Pierre, porté par 14 personnes, sous les applaudissements de la foule pour rejoindre la place Saint-Pierre, alors que la cérémonie d'hommage est sur le point de démarrer. 8h16, les cardinaux sortent un à un de la basilique Saint-Pierre. Alors que le cercueil du pape François a été posé sur le sol de la place Saint-Pierre, les cardinaux sortent un à un de la basilique pour prendre place dans l'assistance en attendant que Giovanni Battistare, doyen du collège des cardinaux, ne prenne la parole. C'est lui qui préside la messe. Elle dure environ 1h30 avec la participation de 224 cardinaux et 750 évêques et prêtres. Le cercueil de bois et de zinc, scellé vendredi soir, a par la suite été déposé sur le parvis de la basilique devant l'autel. À 8h40, le cardinal doyen Giovanni Battistare prononce l'homélie. Le pape François a touché les esprits et les cœurs, dit-il. Par notre prière, nous voulons confier l'âme du bien-aimé pontife à Dieu. Le cardinal retrace le parcours du défunt pape tout en évoquant sa personnalité. Il a toujours cherché à illuminer les problèmes de notre temps à la lumière des évangiles.
Nous allons changer de chapitre. Nous nous rendons à présent à Lubumbashi où un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi au lycée Tchondo, quartier Jikamine. Il s'agit d'une institution scolaire du réseau catholique de grande renommée dans la ville de Lubumbashi. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés, signalant que c'est le deuxième incendie enregistré en l'espace de 6 mois dans cette école. Paul Amunanga.
D'après la directrice de l'internat, Sœur Suzanne Moulekwa, le dortoir 2 a été touché par l'incendie. Plus de 100 lits et d'autres biens de valeur, dont des effets scolaires et personnels des élèves et responsables de l'internat, sont consumés dans les feux. Difficile pour l'instant de savoir l'origine de l'incendie, mais plusieurs sources avancent la thèse d'un court-circuit. Le réseau électrique de cette école, construite pendant l'époque coloniale, étant vétuste. Des témoins rapportent que les camions anti-incendie de la mairie et de l'entreprise Schema sont intervenus à temps pour maîtriser les flammes. En novembre 2024, un autre incendie avait consumé le dortoir 1 de l'internat de cette école et le gouverneur Dio Katanga, qui s'était rendu sur les lieux, avait promis de réhabiliter rapidement l'internat. Signalons que le deuxième incendie intervient un jour après la marche des élèves du lycée Tchondo qui se sont rendus au gouvernorat pour rappeler à l'autorité provinciale sa promesse de réhabiliter l'internat après les dégâts matériels du premier incendie. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis cette nouvelle, avant de passer à la page internationale, certaines avenues de la ville de Bounia, très peu fréquentées, sont prises pour des dépotoirs où les gens jettent tous les déchets de ménage et toutes sortes de déchets collectés dans les parages, ce qui expose la population riveraine à des maladies récurrentes, notamment le paludisme. C'est le constat fait ce vendredi 25 avril par Radio Okapi à l'occasion de la célébration ce jour de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Reportage Nicolette Kodiango.
La gestion des déchets publics et de ménage demeure un défi à relever dans la ville de Bounia et pour son 1,5 million d'habitants. Malgré les efforts des autorités, des tas d'immondices sont encore visibles à certains endroits publics de la ville. Curieusement, certaines avenues peu fréquentées sont utilisées comme décharges publiques. C'est ce que déplorent ces riverains qui habitent sur l'avenue Ituri en plein centre-ville.
Chaque samedi, nous enlevons tous les déchets, mais il arrive des fois fois lundi, vous retrouvez encore. On a jeté des immondices ici. Les déchets viennent de partout, au marché de la ville.
Cette situation expose de nombreuses familles à de maladies récurrentes qui, non seulement les déstabilisent, mais aussi impactent leur situation financière.
Les enfants tombent malades à chaque fois. Il y a des moustiques exagérés. Des rats sont devenus très nombreux à la maison. Parce que chaque fois, nous trouvons des déchets ici. Nous les enlevons pour les brûler, mais les gens viennent toujours les jeter.
La seule façon de vaincre le paludisme dans nos milieux reste un engagement fort et une bonne politique de gestion de déchets pour l'assainissement du milieu, estime un observateur. Bounia, Niclette Kodiango, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les catholiques ghanéens ont célébré une messe de requiem en l'honneur du pape François vendredi soir à la cathédrale du Saint-Esprit d'Accra. Le pape François a été aimé par de nombreuses personnes en Afrique car il a souvent prié publiquement pour la paix dans les conflits en cours sur le continent. Il a visité 10 pays africains, soit 7 de plus que son prédécesseur. Georges Amponsa Doudou, membre de la fraternité catholique des chevaliers de Saint-Jean International, s'est dit ému par la prière constante du pape François pour la paix dans le monde. Les catholiques représentent environ 10% des populations du Ghana, un pays majoritairement chrétien. Et puis, 60 ans après que le révérend Martin Luther King Jr. a pris la tête d'une manifestation de protestation contre la discrimination en matière de logement et la ségrégation dans les écoles de Boston, des milliers de personnes se sont réunies près du site du mémorial samedi pour honorer sa mémoire et réfléchir à l'évolution de la société depuis quant à l'équité raciale. Le contexte actuel marqué par les attaques de Trump contre la diversité occupait les esprits des participants.
L'invité.
Après 12 ans de pontificat, le pape François décédé lundi 21 avril dernier a été mis en terre ce samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie Majeure, contrairement à ses prédécesseurs inhumés tous dans la basilique Saint-Pierre. Parmi les gens qui l'ont côtoyé figurent Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Il s'entretient ici avec Jacques Mkonkole. Il est notre invité.
Monseigneur Marcel Outembi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Monseigneur, vous avez été président de la conférence épiscopale nationale du Congo de 2016 à 2024. En tant que tel, vous avez travaillé avec le pape François. Que retenez-vous de lui?
Oui, effectivement, durant le pontificat du pape François, qui a duré 12 ans, et je dois dire que mes mandats comme président de la CENCO pendant 8 ans, soit de juin 2016 à juin 2024. Alors, je retiens beaucoup du pontificat du pape François. Un grand pasteur, un grand homme de Dieu, mais humble, simple, proche des gens. Et à travers ses visites apostoliques, il a manifesté sa proximité, son amour de pasteur et de brebis. Et comme il nous invitait toujours, nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, à sentir l'odeur de la brebis, et lui-même, il a prêché par l'exemple.
C'est peut-être ça le profil qu'il voulait d'un évêque.
Et je pense que oui, un pasteur doit être un évêque, tout comme un prêtre, surtout un évêque doit être un pasteur. Un pasteur proche du peuple dont le soin pastoral lui est confié. Ça, c'est important. Et ces visites apostoliques nous invitent aussi à valoriser, à donner de l'importance aux visites pastorales dans nos diocèses respectifs.
Monseigneur, on peut dire que son passage en RDC, c'est un des moments forts que vous retenez de lui.
C'est un moment très fort que je retiens, qui est intervenu pratiquement dans la fin de mon mandat comme président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et c'est quelque chose que je retiens, que je ne vais jamais oublier. Et ça s'inscrit comme un point d'orgue qui s'actionne, qui récompense aussi mon engagement au service de l'Église Famille de Dieu et qui est en aire des Congo.
Monseigneur, qu'est-ce qui faisait la particularité du pape François?
Et son franc-parler, son humilité, il n'hésitait pas à chaque fois qu'il tenait, par exemple, de grandes rencontres, comme l'Angelus, le dimanche où il devait prier avec les pèlerins venus nombreux sur la place Saint-Pierre. Il ne cessait de leur dire, n'oubliez pas de prier pour moi. Donc, un homme qui sent le besoin, qui exprime ses besoins aux chrétiens ordinaires, aux baptisés ordinaires. Donc, un grand sens de l'humilité, un grand sens de simplicité et de proximité.
Et quelle était la place de la RDC dans la gouvernance du pape François et dans ses plaidoyers?
Le pape François a beaucoup aimé la RDC. Et pour preuve, sur le plan liturgique, il a célébré plus d'une fois la messe dans le rite communément appelé le rite congolais, par le passé le rite zaïrois, sous le missel adapté pour les diocèses du Zaïre. Ça, c'est une première, c'est quelque chose de spécial. Le pape François a célébré une messe dans ce rite, dans la basilique Saint-Pierre. C'est une première. Il aimait aussi et il admirait la liturgie célébrée à la congolaise. Une messe vivante, avec la participation de tout le monde, par les chants, par les gestes, par la danse. Et il aimait ça beaucoup. Il a même présenté l'écculturation congolaise comme modèle qui peut inspirer d'autres continents. Et à chaque fois qu'il y avait des cas, par exemple, des morts, des massacres au Congo, suite à l'insécurité endémique que nous connaissons depuis 30 ans. Durant son pontificat, le pape ne cessait de nous adresser un mot de réconfort, un mot de compassion. Il avait vraiment un cœur pour le Congo.
Monseigneur, pour terminer, quelles leçons le monde peut tirer de la vie du pape François?
C'est un pape qui aime l'Église, un pape qui aime l'humanité entière, et pour preuve, il entretenait des relations humaines, amicales, pastorales, faciles avec toutes les catégories de personnes. Mais c'est un pape qui aime aussi notre planète Terre. Il nous invite, face à la crise climatique que nous connaissons aujourd'hui, il invite l'humanité à protéger notre maison commune, la planète Terre.
Monseigneur Marcel Outembi, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Amis à l'écoute, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de journal préparée par Alain Hironk, Jacques-Yves Molima, Pierre Diassino a assuré la prise de son et la mise en onde et Billy Ivan Lutumba vous la présenter. Au nom de toute cette équipe, je vous dis une fois de plus merci et excellente condition d'écoute la suite des programmes de Radio Okapi.